Podcast by Tendance Ouest. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'auteure rouennaise Marie-Josée Bernanos Van Geluwe, qui vient de publier son second livre aux éditions Faber. Baptisé « Il manque toujours à l'appel », cet ouvrage raconte l'histoire tragique de ses aïeux disparus en déportation. Marie-Josée, bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs.
Donc, je m'appelle Marie-Josée Bernanos Van Geluwe et en fait, je suis fille et petite-fille de déportés. C'est-à-dire que ma grand-mère est restée 18 mois dans le camp de Ravensbrück. Quand elle est sortie du camp, elle a appris que son mari, mon grand-père, que je ne connais pas, était mort dans un four crématoire à Dora. Un autre fils, qui lui a eu la chance de s'évader d'un convoi qui l'emmenait avec son père à Buchenwald, a rejoint la résistance. Il a été fusillé à l'âge de 20 ans. Mon père, lui, a été arrêté aussi. Il est allé à Dachau. Quand il est rentré de Dachau le 30 avril 1945, il a retrouvé maman qu'il avait rencontrée quand il faisait le maquis. Ils se sont mariés le 4 septembre 1945, vous imaginez, dans un corps tout faible, tout affreux. Mais par miracle, le 4 juin, 9 mois, jour pour jour, mon frère naissait. Deux mois après, j'étais conçue et mon père est mort des suites de déportation de clinique en clinique le jour de mes 3 ans. Donc je n'ai aucun souvenir, surtout que dans toute ma famille, à part ma grand-mère qui était survivante mais qui rentrait à moitié aveugle et le dos complètement cassé, ma mère, qui elle est restée veuve à l'âge de 25 ans avec deux enfants élevés, s'est murée dans un secret en disant « j'ai juré à votre père de ne jamais rien dire ». Donc elle a quand même égrené des petites choses qui font que j'ai écrit un deuxième livre parce que j'avais envie de retrouver surtout la trace de mon père, et aussi il y a plein d'abîmes de génération en génération qui sont rentrés dans moi parce que j'ai vécu quand même dans la mort et l'intimité de la mort et de la torture toute ma vie.
Oui, en 2011, vous aviez publié un premier livre inspiré par votre enfance. Comment vous vous êtes orienté vers le récit autobiographique et vers l'écriture?
Quand tout d'un coup, je sais pas, il y a eu un déclic, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive, parce qu'il paraît que ça fait beaucoup de bien quand on écrit toute sa douleur intérieure. Donc, je suis allée complètement par hasard à Paris, dans un atelier d'écriture. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un atelier d'écriture, pour m'évader un petit peu de Rouen. Et puis, dans cet atelier, si vous voulez, c'est quand même bien, parce qu'en fait, on est complètement dans le silence, on est 10 autour d'une table. L'animatrice dit quelques phrases, chacun prend un mot pour son histoire personnelle, et tout à coup, je me suis dit, je vais raconter de ma famille. Et je ne sais pas pourquoi, pendant mon premier livre, j'ai aussitôt écrit que les choses de mon enfance. Et donc, c'est quand j'avais plus de 60 ans, j'ai écrit des petites anecdotes quand j'avais 8 ans. Voilà.
Est-ce que ce deuxième livre est une catharsis ?
Le deuxième livre, en fait, c'est venu parce que maintenant je suis devenue encore beaucoup plus adulte et c'est tous les jours qu'il y a quelque chose qui se rapproche de ma famille, de ce qu'ils ont vécu, le moindre intimité, hop, ça y est, c'est pour mon père. Par exemple, mon père, j'ai trois photos, là où il est beau comme un acteur du cinéma, mais j'ai aussi la photo il va mourir. Une autre photo quand maman me disait, tiens, regarde, il vous a dans les bras, elle me dit, de toute façon, il va mourir bientôt. Donc il y a sans arrêt, un rattrapage dans ma tête de la torture. Et en fait, je peux vous dire que il n'y a pas longtemps que j'ai appris que ma famille n'a pas parlé sous la torture. Ce qui est quand même incroyable, c'est pas que j'ai une belle réponse, c'est que j'ai une réponse. Parce que moi, j'aurais parlé, je suis trop faible et trop heureuse. Voilà.
Et comment vous avez pu apprendre ces détails? Quel témoignage vous avez pu recueillir?
Alors donc ma recherche a été sans arrêt de trouver des déportés qui auraient connu mon père dans le même camp, parce que c'est surtout pour mon père, et j'ai retrouvé des gens qui ont connu mon père qui étaient dans le même camp, et je vous assure que j'avais envie de les embrasser, de toucher leur peau, je voulais toucher la peau d'un déporté, la peau de mon père en fait, comme si c'était mon père, et quand il me parlait de ce qui s'est passé, j'avais l'impression que je vivais la douleur et la souffrance de mon père.
Comment est-ce que vous avez découvert le passé de votre famille et l'implication de vos proches dans les réseaux de la résistance? Est-ce que vous saviez des choses à ce sujet quand vous étiez enfant?
Non, parce que ma grand-mère, de toute façon, c'était le silence total. Mais j'ai quand même lu des écrits. Et si vous voulez, mon grand-père, je sais qu'il était en résistant dès 1941 avec la famille Nivremont, qui est très très connue à Rouen. Et ils ont tous été arrêtés rue Pouchet à Rouen. Et ma grand-mère, elle a été torturée au donjon, Enfin, en gros, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient tous à Bonne Nouvelle et c'est le taxi qui les prenait pour aller se faire torturer au donjon. Donc, mon grand-père et ma grand-mère. Mon père, lui, il est arrêté dans la brasserie de la gare Saint-Lazare, au sous-sol, parce qu'il y avait une réunion de résistants et la Gestapo les attendait. Et son frère, lui, il a été arrêté aussi et lui, il a été torturé rue des Saussées. Bien, terrible, terrible lieu de torture. Et mon père, il est à Fresnes, où il a eu les ongles arrachés.
Vous avez su le détail des tortures qui ont été infligées à vos proches ?
Justement, je les ai eu, mais vraiment, j'ai lu beaucoup, mais enfin, j'ai eu la vérité de tout ce qu'en fait, peut-être que j'aurais imaginé quand j'étais petite. Tout s'est arrivé quand j'ai rencontré le colonel Thomas, j'ai rencontré le monsieur Meyer, quand j'ai rencontré monsieur Nivremont, quand j'ai rencontré tout ça. Ils m'ont raconté, mais mot par mot, ce qui s'est passé. Et donc, moi, je me dis, mais est-ce que j'aurais voulu savoir si mon père avait crié, s'il avait appelé sa mère, s'il avait appelé ma mère, qu'il avait rencontré, et comment il s'était comporté. Et puis, bon, vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand vous avez un papa, on vous dit il a été abîmé. Et moi, ce mot abîmé, ça a marqué toute ma vie parce que il était beau comme un, il était beau. Puis je pense que je l'aurais aimé, mais bon, je ne savais même pas. Ouais.
Est-ce que vous avez glissé des photographies de votre père dans le livre ?
Non, je les ai glissées dans le premier livre, mais pas dans le deuxième. C'est vrai que non. Mais quand je fais beaucoup de conférences dans les écoles partout, même aussi bien dans les associations, parce que je suis dans les associations des anciens combattants, avec les anciens professeurs et tout ça, je fais beaucoup beaucoup de conférences et dans tous les lycées à Rouen partout. Et alors là, j'ai vraiment des photos. D'ailleurs, j'en ai ici que je vais vous montrer. Vous allez être un petit peu émus.
Comment ça se passe quand vous intervenez en lycée ? Quels ont été les retours des étudiants sur votre témoignage ?
Alors le retour est absolument, pour moi c'est absolument extraordinaire, c'est pour ça que je continue. Quand je finis, presque tous, je l'assure, ils descendent pour me toucher la main comme si j'étais la Madone, en disant merci. Les garçons, même les plus grands, ils baissent la tête parce qu'ils veulent pas montrer leurs pleurs. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils mettent mon témoignage en ligne et puis ils me font des petits livrets en disant merci madame, et tous, presque tous disent, écoutez, oh, moi aussi j'ai eu un grand-père, moi aussi j'ai eu un arrière-grand-père, mais on ne sait rien, on a entendu des choses, et en fait ils sont heureux d'apprendre quelque chose.
Oui. Quel est le réseau de résistance que votre père a intégré ?
Alors c'était le réseau Turma Vengeance. Turma Vengeance qui était de la région de Rouen, et c'est comme ça qu'il a rencontré aussi la famille Nivremont, et puis ils ont continué. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc mon père, lui, il a été arrêté presque le 2 juillet 44. Donc, enfin pas le 2 juillet 44, mais il a été dans le train de la mort du 2 juillet 44. Est-ce que vous vous rendez compte que le 2 juillet 44, c'était après le débarquement, et donc il y a eu plein de déportés qui sont morts après le débarquement. Et moi, j'ai demandé à un résistant qui était le compagnon de mon père, je lui ai dit, mais il m'a dit, tu sais, ça nous donnait un petit peu d'espoir en disant, mais non, parce qu'il savait que la France était quand même libérée, qu'il y avait le débarquement. Il dit, ça nous a fait tenir un petit peu. Mais tu sais, les capots étaient tellement si terribles, ils nous tapaient, mais on n'en pouvait plus. Puis alors la faim et la douleur. Hein. Parce que moi, mon père disait toujours, fallait que je dorme sur mes sabots alors que j'avais que les côtes cassées. Mais si, parce que si je me réveillais sans sabots, je ne pouvais plus marcher, je mourrais tout de suite.
Est-ce que vous savez quels ont été les actes de résistance menés par votre père ?
Non, puisque maman m'a dit je veux rien dire du tout. Elle me disait simplement dans une mine. J'ai jamais su ce que c'était ça. Et en fait, je l'ai su il y a 2 ans quand on est allé à Neckargerat en Allemagne, parce que à Dachau il y avait des commandos. Et les bien portants partaient dans des commandos. Et je suis allée exactement à l'endroit où il était. Et j'ai bien vu que quand il y avait tellement pas de place, il me laissait tout le monde dormir par terre. Ouais. Et c'était la mine de Daimler, la fabrication des Mercedes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de l'arrestation de votre papa ? Comment la Gestapo est parvenue à identifier l'activité de résistant de votre papa ?
Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je sais simplement que pour mon grand-père et ma grand-mère à la rue Pouchet, ils sont rentrés un matin à 8 et ils ont cassé donc la porte. Ils ont arrêté ma grand-mère et mon grand-père était en train de sauver des aviateurs en Alsace. Il a été arrêté aussitôt après, il l'attendait forcément. Et donc ils ont tout fouillé pour trouver des documents. Alors est-ce qu'ils en ont trouvé ? Est-ce qu'ils en ont pas trouvé ? Je ne sais pas. Ils ont arrêté ma grand-mère et puis ils ont attendu mon grand-père qui a été arrêté aussitôt. Donc je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Au retour des camps, est-ce que votre papa a raconté son expérience des camps à votre mère ?
Oui, oui, il m'a raconté, mais elle a dit j'ai juré à votre père de ne jamais rien dire. Par contre, elle a laissé il y a 10 ans une chemise avec plein d'articles. Et là, il y a absolument 2 textes de mon père que j'ai dans le livre qui sont extraordinaires. Il raconte ce que c'était la vie dans le camp. Il raconte un petit peu aussi bien comment des fois pour survivre il fallait voler, comme il dit, donc il fallait le dire. Il disait même, tu sais, où sont tous ces grands généraux, ces grands colonels, ces grands sous-préfets, préfets, qui à Compiègne donnaient plein de largesses, qui étaient bientôt à 4 pattes aussi pour essayer d'attraper un bout de carotte par terre et taper sur son voisin. Donc c'est terrible. Et il raconte aussi tout le train de la mort. Quand dans chaque wagon, si vous voulez, ils étaient 100 alors qu'on pouvait avoir que 8 chevaux. Et l'espace vital n'était qu'une feuille A4 que vous avez dans la main. Et donc forcément, ils étaient complètement encastrés les uns dans les autres, à boire les urines, à se crever les yeux par la folie. Et mon ami, là, que j'ai, le colonel Thomas, il m'a tout décrit. Il était aussi dans un wagon. Et lui, dans son wagon, il y a eu 75 morts. Et dans celui de mon père, 65. Oui.
Ce secret familial a dû beaucoup vous peser. Dans quelle mesure vous avez réussi à le percer ? À quel moment vous avez réussi à obtenir des informations de la part de votre mère ?
Alors, c'est parce que, bon, d'abord, le premier livre, elle n'était pas d'accord du tout, parce qu'elle dit non, je veux pas qu'on parle de la déportation. Et puis, comme il y a eu beaucoup de compliments, etc., il dit, oh, bah, c'est bien, votre fille, elle parle. Elle a laissé des petites traces, comme ça, en disant de mon père. Par exemple, elle m'a dit, mais tu sais, ton père, un jour, il a été arrêté à Rouen, il était au palais de justice. Faut savoir qu'en sous-sol du palais de justice, c'était aussi un lieu de torture, et pas beaucoup de Rouennais le savent. Et elle m'a dit, tu sais, c'était avant qu'il parte, elle m'a dit, tu sais, on m'a dit, surtout, ne va pas le voir, il n'est pas beau à voir, parce qu'il avait été vraiment tapé. Ensuite, elle laissait des petits mots. Il y a 3 semaines, elle est décédée le 1er mai, il y a 3 semaines, j'y vais, complètement par hasard, elle me dit, tiens, regarde, il y a un petit carnet, c'est l'écriture de ton père, et je l'ai là, un tout petit agenda, et il y a toutes les adresses des déportés, des compagnons de mon père, et donc dont 5-6 que j'ai retrouvées. Et par contre, mon père, je sais qu'il était le secrétaire général de Michelet, oui, et avec le colonel Thomas, donc c'était son bras droit. Et donc elle a laissé quand même une lettre où mon père, rouspète après Michelet, dit « écoute, t'exagères quand même, moi je suis tout seul dans le bureau à Paris, j'essaye de retrouver de tous les adresses de ceux qui sont survivants pour leur annoncer qu'ils ne sont plus là, etc. Tu me laisses tout seul, j'ai même pas une secrétaire et tout ça. » Donc ça me fait très très sourire d'avoir une lettre de mon père contre son copain Michelet. Voilà.
Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce livre ?
Ce que je voudrais surtout dire, c'est que toutes ces brèves histoires, ces longues histoires, c'est sûr que ce sont des petites histoires d'une longue histoire du monde. Mais si seulement ça pouvait alerter au moins la moitié du monde, qu'on arrête, qu'on aime son prochain, mais si vous voulez, même si c'est un Allemand, on n'a pas besoin de le torturer pour faire la guerre. La guerre, c'est pas forcément la torture. Et c'est ça que je comprends pas, moi, c'est cet acharnement pour tuer, pour déshumaniser, quand ils étaient rasés, tabassés. Et pourquoi ? Ça sert strictement à rien. Et donc je dis surtout pour la justice, et je leur dis toujours, ne suivez pas un meneur sans savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Ne suivez pas comme des bêtes, comme des moutons, surtout pas. Essayez de réfléchir, essayez d'avoir de la personnalité. Et puis ce que je leur dis aussi, vous savez, les 4 personnes, ils ont tellement été dans ma famille, torturés, tout ça, ça m'a donné une force de vaincre, une force, une rage. Et je me dis, mais si dans la vie il y a des difficultés, si on a envie de pleurer parce qu'il y a des problèmes, à chaque fois je me dis, mais non, tiens bon, c'est rien du tout par rapport à ce qu'a vécu ta famille. Et c'est comme ça que ça m'a mené toute ma vie, c'est mon fil rouge.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Josée. Nous rappelons à nos lecteurs que le livre est disponible en librairie dès aujourd'hui et qu'à travers l'histoire individuelle, eh bien c'est l'histoire collective que l'auteur exhume.
Podcast by Tendance Ouest.